טוב רבותיי, לקום סוסוס של להילולה, להזכרה של מרן רבי עובדיה יוסף, זצ"ל. Alors on va dire quelques mots. Alors évidemment, j'ai pas la prétention de faire, n'est-ce pas, un esped, parce qu'en effet, nous dit le Shulchan Aruch que quand on parle de quelqu'un qui est décédé, eh bien, on peut même des fois rajouter un petit peu, faire des louanges et rajouter un petit peu. Alors rajouter, c'est quand tu connais la personne. Mais lorsqu'en fait, il y a des années-lumière qui nous séparent, qui nous différencient de la grandeur d'un géant Torah comme Rav Ovadia, alors évidemment, on ne peut pas, n'est-ce pas, parler vraiment de ses louanges parce qu'on ne peut pas connaître, évaluer sa grandeur. Mais cependant, c'est écrit que c'est toujours bien, eh bien de ramener des faits, des témoignages pour nous renforcer, prendre du chizouk. Parce qu'il faut savoir que chaque génération, chaque personne qui est là sur Terre, c'est un rapport avec nous. C'est ce qu'il faut le savoir. Disait le Baal Shem Tov, le monde c'est un miroir. C'est-à-dire que tout ce qui est autour de toi, tout ce que tu vois, il y a un message divin pour toi. Un message divin. Et comme dit le verset dans Kohelet, « Al tomar shayamim arishonim yafim me'elu ki lo mechochma shal tazot » Ne dis pas « Eh bien, moi, j'aurais voulu vivre il y a 200 ans et 500 ans. Ma génération, aujourd'hui, elle est ratée, ça ne me convient pas. J'aurais voulu vivre au Moyen-Âge, dans un autre pays, d'autres conditions. » Il ne faut pas dire ça. « Kilo mechochma shal tazot » Ce n'est pas une question intelligente. Ce n'est pas une demande intelligente ni sage de ta part. Pourquoi ? Parce qu'Hachem t'a mis dans cette génération, avec tous ses avantages et tous ses inconvénients. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un message, une mission bien particulière que tu dois remplir par rapport à tel neshama dans cette génération, dans tel pays. Donc par aussi, c'est que si on avait dans notre génération un grand Torah comme Rav Ovadia, ça veut dire qu'il y a un message divin pour nous, ça nous concerne personnellement. Sa grandeur en Torah, même si on est très loin de lui, mais il y a toujours un message à tirer de cela. Et c'est pourquoi, notamment, lorsque c'est la Skara Luyurtzeit, c'est bien de rappeler certains faits pour prendre exemple, pour prendre un certain chizouk, chacun selon son niveau spirituel, intellectuel, selon ses capacités, de prendre du chizouk. Et d'ailleurs, c'est écrit que lorsque quelqu'un est décédé, que ce soit un proche parent ou alors un grand Torah, toutes ces midot, elles sont efker. C'est-à-dire que ses qualités, ses vertus, elles sont données en efker. Pas si, mais par exemple, si un grand-père, une grand-mère est décédée, alors on souhaite longue vie à tout le monde jusqu'à 120 ans, mais ça arrive une fois, quand les grands-parents sont décédés, sachez que, surtout les premiers jours, les 7 jours, les 30 jours, l'année entière, c'est des moments très propices pour pouvoir acquérir les qualités et les vertus qu'avait ce proche-parent. J'ai la possibilité plus facilement de me conduire selon de suivre leur voie dans leurs qualités et leurs vertus. Et par aussi, lorsqu'on arrive au Yurtzeit à l'Askara, cette journée-là est propice pour suivre en fait les chemins de Rav Ovadia. Okay. Alors le fait, n'est-ce pas, de rappeler certains faits, premièrement. Deuxièmement, il faut, comme on a dit, il faut se sentir concerné. Le fait, qu'il vivait avec nous pendant une dizaine d'années, on doit se sentir concerné par sa présence. Pas dire, ça ne me regarde pas, n'est-ce pas, c'est un genre en Torah, moi je suis un petit en Torah. Non, on est concerné par certains domaines. Et troisièmement, on peut décider de s'initier. Il ne s'agit pas d'imiter, les grands vivants, l'imitation n'est pas conseillé, mais on peut décider de suivre un certain chemin, une certaine orientation qu'il nous a donnée par sa conduite ou alors par son enseignement. C'est ce qu'on va essayer d'expliquer aujourd'hui, Bézrat Hachem. Top. Alors en fait, d'abord ce qu'il faut savoir, c'est que le Rav Ovadia n'est pas né Rav Ovadia. Vous savez, le Rav Volbe disait souvent qu'il s'oppose farouchement aux biographies des grands de la Torah. Pourquoi ? Parce qu'en général, on va te faire une démonstration, un énoncé, pour te montrer comme si cet homme-là, il est né un génie. Un génie, un érudit, n'est-ce pas ? Depuis son jeune âge, on te raconte des miracles pas possibles. Et là, automatiquement, tu dis, ça ne me concerne pas. c'est du surnaturel. Ça n'a rien à voir avec moi. Alors, mis à part que ce n'est pas du tout éducatif, mais encore plus, c'est faux. Parce qu'en fait, on ne sait pas, je veux dire, on n'imagine pas les difficultés que les grands Torah ont traversées. Ça, il faut le savoir. Ça, c'est écrit, n'est-ce pas, Nedra Voutner, il dit le Chafetz Chaim, le mec qui était, on va dire, un géant dans le respect de sa bouche et sa langue. Pas si vous connaissez l'histoire, une fois un jour de Pourim. Alors, les élèves sont rentrés chez lui. Bon, et lui, un élève avait un peu trop bu. Alors, il a pris, n'est-ce pas, le Chafetz Chaim, qui avait déjà 80 ans, comme ça, par sa chemise, n'est-ce pas? Et il lui a dit, Rabbi, jure-moi, eh bien, que je serai à côté de toi au monde futur là-bas. Évidemment, les camarades ont essayé de le mettre de côté, mais lui, tiens bon, il leur a dit, laissez-le. Et tu vas être avec moi au monde futur? Il dit, écoute bien, tu vois ces lèvres-là? Ça fait plus de 60 ans, eh bien, que je n'ai pas prononcé, ne serait-ce que Avak, la chanara, une seule fois. Avak, c'est la poussière du lèvres. Quand tu dis, bon, laisse-moi me taire, je vais rien dire, tu n'as pas critiqué, mais tu as insinué qu'il y avait une critique éventuelle. Ça assure comme Idrabanan. Alors, il a témoigné que pendant 60 ans, il n'a jamais prononcé une parole de la Shonara, le Chilut, avec la Shonara. Il lui a dit, eh bien, si tu prends toi aussi cette décision, eh bien, je te garantis, tu seras à côté de moi au paradis, là-bas. L'élève, il a entendu ça, il a pris peur, il s'est sauvé. Ça, c'est l'histoire. Et donc, en fait, il dit le Rav Voutner que le Chafetz Chaim, on ne peut pas s'imaginer combien de difficultés il a traversées pour respecter sa bouche, pour ne jamais dire du Lashon Hara. Il n'est pas né Chafetz Chaim. Il a travaillé des années, des dizaines d'années, il est tombé plusieurs fois, il a échoué plusieurs fois, il a fait tchouva, jusqu'à ce qu'en effet, il est devenu le Chafetz Chaim. Pareil pour tous les Gdolei Israël. Donc, disait Rav Volbe, dans les biographies, en général, eh bien, ils ont omis ces détails-là. Ils ne vont pas vous raconter toutes les difficultés que ces grands-là ont eues pour respecter la Torah. Des fois, ils avaient même, n'est-ce pas, une tendance pour une avéra. D'ailleurs, on a retrouvé, il n'y a pas longtemps, un agenda du Chassid Yabetz. Yabetz, il y a environ 300 ans, en Europe, on a retrouvé un agenda. Et les Gdolei Israël se sont opposés qu'on publie ce livre-là. Pourquoi ? Parce qu'en effet, dans son agenda, eh bien, il fait là-bas allusion à certaines avérotes, certaines fautes par lesquelles il était tenté. Il avait une telle épreuve. En effet, eh bien, pas tout le monde est en mesure de comprendre cela, parce qu'on s'imagine qu'un Gadol Batora était toujours sadique, et ce n'est pas toujours le cas. En fait, eh bien, on ne s'imagine pas qu'est-ce qu'une personne a traversé dans sa vie comme difficulté, comme problème, comme échec, avant d'être un grand Torah. Et ce n'est pas aussi pour Ravadia. Alors, il est vrai, n'est-ce pas, qu'il y avait certains dons. On sait que le Gaon de Vilna était vraiment très doué, était comme un génie depuis son jeune âge, ainsi que Rav Nathan de Béchis. Mais d'autres, Gdolei Israël, c'était le contraire. Le Chazon Ish avait un esprit très moyen. Le Maharam Shi, qui était très bouché, l'esprit vraiment bouché. J'ai raconté hier soir au cours que le Baal HaRi Kanati. Kanati, c'est un des Gdolei HaRishonim. Environ il y a 700-750 ans. Et cet homme-là, il était hyper bouché. Tout ce qu'il... D'abord, il avait une difficulté monstre à comprendre, un texte de Gemara. Et deuxièmement, il oubliait tout de suite. Tout de suite, il oubliait. Le lendemain, il ne se rappelait pas de ce qu'il avait étudié la veille. Mais malgré tout, jamais il s'est découragé. Il étudiait, pas jour et nuit, en priant, en pleurant. Et un beau jour, lorsqu'il avait déjà l'âge de 80 ans, c'était en pleine nuit, il étudiait la Torah, et il s'endormit sur sa Gemara, en train de prier, de pleurer. Et puis il voit en rêve quelqu'un qui paraît comme un grand rabbin impressionnant. Il le prend dans une barque, et après, il introduit un verre dans le lac en question, et il fait boire. Il boit cette eau. Et ensuite, il lui dit, eh bien, maintenant, recommence à étudier. Et il s'est réveillé. Il raconte que quand il s'est réveillé, tout d'un coup, il a senti que toute la Torah qu'il a étudiée pendant des dizaines d'années, eh bien, elle lui est revenue à l'esprit. Et il s'est mis à écrire. Pendant 10 heures, 15 heures d'affilée, il a essayé à écrire. Et puis, il a beaucoup écrit. Il est décédé à l'âge de 85 ans, semble-t-il. Donc tout ce qu'on a de lui comme écrit comme livre, c'est de l'âge de 80 ans à 87 ans. Parce qu'auparavant, il était bouché, il ne comprenait rien. Voilà quand un homme ne se décourage pas, et bien ensuite la Torah lui est donnée en cadeau. Donc c'est pareil pour beaucoup, pas tous, mais beaucoup de Gdolei Israël, qui ne sont pas nés des génies, mais la Torah leur a été donnée en cadeau lorsqu'ils ont fourni des efforts surhumains pendant des années. Efforts surhumains d'études, d'assiduité, de volonté, prière, demander des brachot, n'est-ce pas, beaucoup de pleurs aussi. Et en effet, c'est ce qu'il racontait ce Rav Avadia depuis son jeune âge. Depuis son jeune âge, tout d'abord, il était très assidu. Très assidu, il ne bougeait pas de la chaise. Pendant des heures et des heures, on va raconter tout de suite. À part ça, eh bien, il faisait beaucoup de prières pour surtout se rappeler de la Torah. En effet, on sait que une des vertus qui le qualifie, c'est sa connaissance qui est monstre en Torah. Vraiment, toute la Torah, on va aussi parler de cela. Et il faisait aussi toutes les sgoulottes qu'il trouvait sur la Torah pour se rappeler de la Torah. Ça, on a des sgoulottes, c'est pas l'essentiel de la Torah. Mais la sgoula est aussi importante. Eh bien, de dire telle phrase, de ne pas manger des olives, on oublie la Torah, de prendre de l'huile d'olive, eh bien, ça aussi, tout ce qu'il trouvait, il le faisait. Mais, en effet, ça, c'est un surplus. L'essentiel, c'était son assiduité à la Torah. À savoir, il a raconté dans un livre qui a été édité, la chose suivante. Une fois, n'est-ce pas, eh bien, un jeune avraire de 30 ans est rentré chez lui. Il dit, Rabbi, donnez-moi une sgoula pour la mémoire. Sgoula, c'est une façon, une potion magique pour se rappeler de la Torah. Il dit, viens une sgoula, sors-moi tel gmara. Il y avait un tosfot immense, n'est-ce pas, sur toute la page. Il a dit, regarde le tosfot, suis-moi mot à mot. Et alors, voyez, il lui a récité le tosfot de A à Z, mot à mot, sans faire une erreur. Lorsqu'il a terminé, et l'élève, il suivait, n'est-ce pas, mot à mot. Il lui a dit, ce tosfot-là, je l'ai étudié plus de 200 fois. C'est ça, la sgoula, pour se rappeler de la Torah. Parce qu'en effet, la sgoula, c'est important, c'est bien, mais plus important, c'est l'assiduité. Alors là, en effet, eh bien, je dirais qu'en général, on a un certain problème. Nous, on n'étudie pas la Torah comme il faut l'étudier. Parce qu'en fait, bon, on peut dire qu'il faut une force vraiment magique pour réviser un tosfot plus de 200 fois. C'est vrai. Pas c'est vrai. Mais au moins, à notre niveau, on doit savoir eh bien, que la Torah, on ne peut pas l'acquérir avec une étude une fois ou deux fois. La compréhension eh bien, élémentaire qu'on a ne suffit pas. Et si on a déjà fait un passage, une Mishnah, une Gemara, un Tosfot, 2, 3, 5 fois, 10 fois, on sent que c'est terminé. Ah, ça, je le connais, je le maîtrise. Donc. Et là, c'est une erreur. La Gemara dit, dans Chagiga, Taftet, et nos données, mi shishane pirko mea ve'chad, le mea ve'chatayim. Tu ne peux pas comparer eh bien, quelqu'un qui a révisé sa Gemara, sa leçon, son chapitre, 100 fois, et 101 fois. Alors que même entre 100 fois et 101 fois, il y a une différence flagrante entre les deux. Ça n'a rien à voir. 100 fois, ce n'est pas 101 fois. Ce n'est pas minime et no domé. Tu ne peux même pas comparer quelqu'un qui a fait sa page de Gemara 100 fois ou 101 fois. C'est incomparable. Et sachez que c'était le secret, un des grands secrets de tous les Gdolei Israël. Il a raconté, même ordre d'idée, que le Chazon Ish, quelqu'un a témoigné, il l'a vu. C'était une journée d'été. Donc en été, n'est-ce pas, en Israël, il fait nuit vers 8h du soir. Il a fait Mincha Gdola, donc vers 13h, 13h30, il a fait Mincha. Et quand il a fini Mincha, donc vers 14h on va dire, eh bien il a pris une page de Gemara et il s'est mis debout en face du mur et il a répété la page de Gemara sans commentaire, même pas Rashi, sans s'arrêter jusqu'à la nuit. Donc pendant environ, on va dire, 6 heures d'affilée, il a répété une page de Gemara pendant des milliers de fois. Bien qu'après 10 fois, 15 fois, 101 fois, terminé. Non, il a répété. En effet, il a raconté que dans la cour là où il habitait, les enfants connaissaient des Mishnayot par cœur. Tellement ils répétaient les Mishnayot des milliers de fois le Chazonish, que les enfants, eh bien, l'entendaient, connaissaient les Mishnayot par cœur. Et là, n'est-ce pas, il faut savoir que, mis à part, eh bien, l'impact au niveau de la mémoire quand tu vas répéter un texte, mis à part ça, il y a un grand secret qui s'appelle Kedushat HaTorah. Vous savez, la Torah, c'est une grande Kedusha. On le sait, n'est-ce pas? En effet, on voit un Sefer Torah. Eh bien, même les gens qui sont loin de la Torah sont ébranlés. Et je vais raconter une histoire, une belle histoire. Qui m'a raconté ça, c'est Rabbi Yaakov Pinto, qui était à Ashdod, qui est maintenant à Los Angeles. C'est le frère du Rav David Pinto de Paris, Ashdod. Alors, quelqu'un est venu le voir, qu'il connaissait, et il avait, ce moment-là, il avait un restaurant où ça, en Thaïlande, à Phuket. Top. Un restaurant pas cachère. Bon, c'était un juif, le bonhomme. Top. Et alors, Pinto lui parle, lui dit, écoute, c'est bondé, pas Phuket, c'est bondé d'Israéliens. Il y a des dizaines de milliers par an qui vont là-bas, en Thaïlande. Il y a une danse de la lune, le 15 du mois, il y a une danse très spéciale. Top. Alors malheureusement, beaucoup d'Israéliens vont là-bas. Il y a beaucoup d'Israéliens, c'est bondé. Eh bien, le restaurant fait le cachère. Et il lui dit aussi, que tu sais quoi, ouvre un minyan là-bas, fais une synagogue. Tu sais, je suis prêt à te donner un Sefer Torah si tu veux ouvrir une synagogue là-bas. Bon, il lui dit, Rabbi, je vais réfléchir. Bon, il rentre là-bas en Thaïlande. Après quelques jours, il le rappelle. Il dit, Rabbi, c'est bon. J'ai parlé aux associés. Eh bien, on est d'accord. On fait le restaurant cachère. On ouvre une synagogue. Bon, le Rav Pinto a réuni de l'argent, a acheté un Sefer Torah, 30 000 euros, un beau Sefer Torah, et il a envoyé son frère qui s'appelle Vladimir Pinto, d'Israël jusqu'en Thaïlande. Il a pris deux avions et un bateau. Quand il sort du bateau, avec le Sefer Torah dans ses bras, eh bien, ça donnait directement sur une plage. Une plage qui était, eh bien, ce jour-là, pleine. Pleine d'Israéliens et d'Israéliennes. Des milliers. Et lorsque ils voient le Sefer Torah, ils se mettent à courir, pratiquement tous, n'est-ce pas? Ils se couvrent de serviettes, n'est-ce pas? Couvrent la Torah. Et ils couvrent le Sefer Torah. Et ils l'embrassent. Certains se mettent à pleurer. Et un de là-bas se rapproche du Rav Pinto, lui dit, Rabbi, est-ce que je peux prendre le Sefer Torah dans les bras? Il y prend le. Il le prend et il se met à pleurer. Et il lui dit, Rabbi, c'est la première fois de ma vie que je vois un Sefer Torah. Il lui raconte qu'en fait, il est garde-corps du président des États-Unis qui était George Bush à l'époque. Bon, ils ont fait une fête là-bas, inauguré le restaurant cachère, la synagogue. Et cet homme-là, ce garde-corps de Bush, eh bien, grâce à cela, il a fait tchouva. Aujourd'hui, il étudie en Israël 16 heures de Torah par jour. Il a démissionné de la Maison Blanche. Il étudie la Torah du matin au soir. Voilà pour vous dire, eh bien, qu'est-ce qu'un Sefer Torah peut réaliser? Parce qu'on sent, on sait qu'il y a une Gdusha particulière dans le Sefer Torah. Je reviens au sujet. Lorsque tu prends une page de Gemara, et vous savez quoi, même si on n'est pas au niveau, eh bien, de faire toute la Torah, parce que la Torah, plus de 100 fois, comme l'a fait le Rav Ovadia, tout le Talmud, en effet, à l'âge de son neveu qui a été avec moi, on m'a raconté que lorsqu'il avait 55 ans, Rav Ovadia, eh bien, il avait déjà étudié le chasse entier, tout le Talmud, 85 fois. Il a fait le Sion, n'est-ce pas, du chasse, 85 fois à l'âge de 55 ans. Donc apparemment, il a dû parcourir plus de 100 fois tout le Talmud dans sa vie. Top. Alors si on n'est pas à ce niveau-là, ça vaut la peine d'expérimenter. Tu prends une page de Gemara, une feuille, un livre de Gemara, et tu l'étudies 101 fois. 101 fois. Ou un chapitre, une maserhet, 101 fois. Expérimenter. Qu'est-ce que ça donne? Parce qu'en effet, ça donne aussi que Kedushat HaTorah. Comment est-ce qu'on peut être imprégné de la sainteté de la Torah lorsque tu vas prendre un texte et le répéter, le rabâcher? Évidemment, plus on comprend, mieux c'est. C'est écrit que même sans comprendre, eh bien, il y a un impact. Alors, j'ai un écrit chez moi à la maison, à part là-bas, de quelqu'un qui ne comprenait rien en Gemara. Rien en Gemara. Mais il avait une habitude. Il dit, je comprends rien, n'est-ce pas, je vais faire. Il faisait, non pas de la famille, il étudiait tous les jours 7 dapim de Gemara par jour, 14 pages de Gemara. Donc il terminait le Talmud entier chaque année, sans rien comprendre. Il lisait. Et puis un grand Talmud Hacham écrit là-bas que cet homme, il ressemblait à un malach, à un ange. Parce que la lecture, ne serait-ce que la lecture d'un texte de Gemara sans comprendre, ça transforme. Et non, c'est pas en une fois, c'est pas en un an, c'est en 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et c'est aussi un des secrets des Gdolei Israël, qu'ils ont tellement étudié la Torah pendant des dizaines d'années, des milliers de fois, eh bien, le texte de la Gemara t'a donné un petit peu de sa Kdusha. Ça sanctifie la personne, ça purifie l'esprit, ça purifie le cœur. Ça donne, Michal aussi, ça donne une envie, une ambition, eh bien, de grandir en Torah, de faire la mitzvah, de faire le Shabbat, de faire la tefila. Tu sais, des fois, on fait la tefila, bon, mais on s'ennuie. On s'ennuie. Bon, une fois qui pour bon, mais tous les jours. Eh bien, en effet, lorsque tu vas être imprégné de la Kdusha de la Torah, parce que tu as révisé ta page de Gemara 101 fois, tu verras, ta tefila sera une autre tefila. Parce qu'on voit les Gdolei Israël, ce n'est pas que en connaissant la Torah. On va dire, il était géant aussi en tefila, en Yirat Shamayim, en beaucoup de notions. Parce que la Torah, qui, eh bien, vous le savez bien, je fais un rappel, c'est la mitzvah la plus importante, eh bien, elle donne de la Kdusha bien plus que toutes les autres mitzvot. Donc en fait, un des éléments qui a fait grandir le Rav Avadia, comme beaucoup de Gdolei Israël, eh bien, ce n'est pas uniquement, eh bien, on va dire, ça, le fait qu'il était doué, n'est-ce pas, son génie, sa révision, sa mémoire, c'est vrai tout ça, mais aussi et surtout Kdusha ta Torah. Lorsqu'il a révisé une Gemara, eh bien, 50 fois, 60 fois, d'ailleurs, une fois, un élève était chez lui, il dit, ce matin, il étudiait tel maserhet. Bon, il faisait 3-4 maserhetot. Il a dit, il ne faut pas trop s'éparpiller. Il a dit, moi, quand j'étais à la Yeshiva pour OTSF, eh bien, on a fait maserhet Gittin en 5 mois, de Sukkot à Pessah. En 5 mois, j'ai étudié maserhet Gittin 60 fois. 60 fois, dis-lui à la fin. Ouais. Parce que là aussi, en effet, eh bien, 60 fois, ça te donne Kdushat HaTorah. Et en effet, quand on ne va pas trop éparpiller l'esprit, tu vas rester sur une page de Gemara 60 fois, 101 fois, tu vas être métamorphosé par cette Gemara, par cette Mishnah. Ça transforme la personne. C'est des fois, on cherche des goulottes, des conseils pour purifier le cœur, purifier l'esprit. Sachez, c'est écrit, El Gdusha, on a chanté ça, Simchat Torah, El Gdusha, Ke Gdushat HaTorah, El Zgula Ka Torah. La plus grande Gdusha, c'est dans la Torah. Mais évidemment, ce n'est pas une fois et deux fois. C'est quand tu prends, n'est-ce pas, je vous dis, expérimentez ça. Prenez une Mishnah, un chapitre, une page de Gemara, c'est bien pour l'expérimenter de prendre une Gemara que tu kiffes, que tu aimes. Parce que tu vas plus s'identifier par rapport à cette page de Gemara. Révise-la 101 fois, vois ce que ça donne.
101 fois, c'est d'entrée comme ça.
Alors, en effet, les deux sont expérimentés. Donc, bonne question, il faut faire les deux. Tu peux faire 101 fois, une fois par jour. Et 101 fois, n'est-ce pas, 10 heures, 15 heures d'affilée. D'accord. Pourquoi? Parce que l'impact est différent. D'accord. Dans les deux cas, il y a un impact et l'impact, il est différent. Parce qu'en effet, eh bien, c'est-à-dire que on peut dire que l'un, c'est dans la qualité, dans la quantité, dans l'intensité. Il y a plusieurs façons dans la Torah pour avoir un impact sur nous. En effet, c'est bien de faire les deux à la fois. Donc, ça peut être Mishnah, ça peut être Gemara, ça peut être autre chose, ça peut être un chapitre, ça peut être une longue Gemara, un Tosfot, mais expérimenter la question de répéter la Torah. Ce qu'a dit le Rav Avadia à cet élève-là, eh bien, la Zgoula, c'est qu'il a étudié ce Tosfot plus de 200 fois. Donc, on va dire dans la Gemara, on parle, n'est-ce pas, pour révision, le minimum à étudier une Gemara, sinon, disent nos sages, c'est même pas de l'étude. Le minimum, c'est quand tu as compris le texte, eh bien, de le réviser 4 fois. Quatre fois, là c'est appelé une étude. Ensuite commence la révision. On parle dans le chasse de réviser 12 fois, 24 fois, 40 fois et 101 fois. En effet, il y a une signification à chacun de ces chiffres-là. Et bon, on voit que la révision, n'est-ce pas? Eh bien, c'est hyper important. Maintenant, comme on l'a dit auparavant, ne se croyez pas que Rav Avadia, il avait la vie facile. Alors, mis à part que ses parents étaient très pauvres, lui aussi, quand il s'est marié, il était très pauvre. Un exemple, Un exemple. Eh bien, lorsqu'il avait 4 enfants, donc ils étaient 6 personnes à la maison, ils mangeaient le repas tous les jours, eh bien, en 2 temps. Pourquoi ? Parce qu'ils n'avaient pas assez d'assiettes et de couverts pour 6 personnes. Il y avait 3 ou 4 couverts. Bah, donc, il fallait que la famille eh bien, mange en 2 temps, l'un après l'autre, fait qu'on lave les couverts. Telle pauvreté, eh bien, ils avaient. Et malgré tout, ça ne l'a pas dérangé. Ça ne l'a pas dérangé, eh bien, de grandir en Torah, de s'investir cœur et âme dans cette Torah. Donc, en fait, n'est-ce pas ? Eh bien, ça ne dépend pas des conditions extérieures, parce que dans tous les cas, eh bien, Hachem est là pour t'aider dans son assiduité, et des fois encore plus, lorsqu'on va faire preuve de ce qu'on appelle « Messirut Nefesh », un dévouement total pour la Torah, et c'est là où Hachem, eh bien, donne cette Torah en cadeau. Tov, on va raconter aussi que, eh bien, une fois, il cherche un livre, et il est monté sur une échelle, n'est-ce pas ? Parce qu'en effet, le livre était dans la bibliothèque très élevée. Et avec un amour tel pour la Torah, alors encore haut sur l'échelle, il a ouvert le livre qu'il cherchait. Et par un amour de la Torah, il a plongé dans ce livre, il a oublié qu'il est sur l'échelle. Il est resté sur l'échelle en haut, avec le livre toute la nuit, jusqu'au matin. Le matin, on l'a trouvé, n'est-ce pas ? Ceux qui venaient au net, 5h du matin, l'ont vu, eh bien, sur l'échelle, encore plongé dans l'étude de la Torah. Et là, encore une fois, il n'est pas né comme ça. Il n'est pas né avec un tel amour de la Torah. L'amour de la Torah, d'où est-ce qu'il provient ? Par l'assiduité. C'est-à-dire, on dit tous les jours, dans le Kirat Shema, « Ve'avta et Hashem Elokecha ». Il faut aimer Hashem, tout ton cœur, tout. Et le Ramban pose la question, comment est-ce qu'on peut ordonner d'aimer ? On aime ou on n'aime pas ? Tu peux me dire respecte, honore, fais la mitzvah, mais aimer, eh bien, le sentiment, pas l'amour, on aime ou on n'aime pas. Alors, une des réponses qui est donnée, ça dit ça à l'Orachim Akadosh, eh bien, c'est lorsque tu vas étudier cette Torah, la réviser, la répéter. Tu vas, n'est-ce pas, t'imprégner, tu vas fusionner avec elle, là, automatiquement, tu vas recevoir un amour pour la Torah. C'est ce qu'il y avait aussi, on va dire. C'est avec une telle assiduité en cette Torah, eh bien, il s'est identifié à cette Torah. Au point, n'est-ce pas, de s'oublier sur une échelle pendant une nuit entière. Attends, une fois aussi, ben c'est le contraire, c'est pas qu'il s'est oublié, enfin il s'est oublié, mais il est tombé de l'échelle. L'échelle, il était blessé. En effet, le Rav Eliashiv est allé rendre visite. Il a dit à son élève, on va aller rendre visite, n'est-ce pas, au Sefer Torah. Comme s'il appelait le Rav Adia. Parce que par quelqu'un qui avait un tel amour de la Rav qui était vraiment qui faisait attention à chaque seconde, chaque minute de ne pas la perdre, et bien il a dit, un homme, n'est-ce pas, qui a un tel amour de la Torah, eh bien, je vais à l'hôpital pour lui rendre visite. Top. Une autre fois aussi, un ordre d'idée, eh bien, c'était un vendredi soir, il est resté plongé dans un livre de la Torah, et les Gabaïm ont fermé la synagogue, sans savoir qu'il y avait, eh bien, un jeune garçon qui était là-bas au fond en train d'étudier la Torah, il est resté enfermé pendant quelques heures. Quand ils se sont rendus compte de ça, il passait déjà 11h du soir, bon, il était pas à la porte, par hasard, Mina Shamaim, quelqu'un de la synagogue est passé par là-bas, ils sont allés chercher le gabaï pour lui ouvrir la porte. À ça dit le verset, « Ba'avata tishge tamid ». C'est que des fois, on a un tel amour de la Torah qu'on peut même faire « tishge mina shanche gaga ». On fait des erreurs dans certains domaines, on s'oublie sur une échelle, etc., on s'oublie dans une synagogue, par amour de la Torah. Alors, il est vrai qu'on n'est pas à ce niveau-là, ça ne nous concerne pas. Mais ce qui nous concerne, c'est que l'amour de la Torah, il est présent. L'amour de la Torah, il est dans cette Torah. Et quand on prend une page de Gemara, ne serait-ce qu'un quart d'heure, une demi-heure, une heure, on peut se rapprocher de cette Torah, de cette Kedusha, de cet amour de la Torah. C'est des fois, en effet, ça nous arrive de kiffer une Gemara en Tosfot. En effet. Eh bien, sache que quand tu t'imprègnes de cette Gemara, quand tu vas t'identifier avec la beauté, la splendeur, pas le kiff de la Gemara, de la Mishnah, du Tosfot, eh bien, sache que là, tu te conduis exactement comme les Gdolé Israël. La différence, c'est que le faisait du matin au soir pendant 10 ans, 50 ans. Et nous, ça nous arrive de temps en temps. Mais il faut savoir que quand on le fait, eh bien, on se conduit de façon identique avec eux. Vous savez, notre Kippour, il est presque pareil au Kippour des grands de la Torah. Ça, il faut le savoir. La différence, c'est qu'eux, ils restent en élévation spirituelle, pas que Kippour, toute l'année. Mais en fait, un jour de Kippour, eh bien, on arrive très très loin. On se surpasse. En effet, on arrive à des niveaux très élevés. La différence, eh bien, c'est qu'il faut maintenir cette pression pendant des semaines, des mois, des années. Mais au moins, lorsqu'on est imprégné d'un texte de Torah, on s'identifie avec cette beauté, cette pensée, cette compréhension, on a bûché une demi-heure, et après on a compris l'autospot, eh bien, savoir eh bien, que maintenant tu te rapproches de la Torah, de la Kedusha. Et des fois, en effet, ça vaut la peine de s'investir, reste sur ta chaise pendant une demi-heure, 2 heures, 5 heures, 10 heures, ne bouge pas. Tu vas répéter l'autospot 10 fois, 50 fois, 101 fois. C'est là où tu vas être métamorphosé par cette beauté de la Torah, par cette Kedusha de la Torah. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, ça nous concerne à tous. Bien que le Gdolé Israël eh bien, était beaucoup plus grand que nous, ça nous concerne à tous. Alors puisqu'on parle en effet de la différence entre nous et eux, de leur grandeur, on va vous ramener ce que disait le Rav Yehoshua Cohen. C'est un grand érudit en Talmud de nos jours. Il s'appelle Rabbi Yehoshua Cohen, il habite à Geoula, le Chov Rabbi Hassan Lar numéro 10. Top. Il a écrit un livre qui s'appelle Kerem Yehoshua, traduit en français aussi, une méthode pour étudier, réviser les exécutoires pour s'en rappeler. Top. Lui, c'est un grand érudit. Alors quand il fait des cours, il fait des démonstrations pour montrer comment est-ce qu'on peut être compétent en Torah. Il va vous dire qu'il y en a dans tout le Talmud, 1687, Marlokot, discussion entre Rashi et Tosfot. Il va commencer à vous les citer. On va vous dire que le Rambam est ramené 3 fois dans les Tosfot dans tout le Talmud. Il vous dira où. Le Rif est ramené plus de 100 fois. Il vous dira bon. Alors une fois, il a fait une démonstration comme ça pendant 3 quarts d'heure. Quand il a terminé, il leur a dit « Sachez qu'il y a au monde encore 2 rabbanim comme moi. » Il n'a pas dit qui c'est. On peut supposer que c'est Rabbi Kanevski et Rabbi Michal Zilber. Ils sont connus comme des grands géonimes en Torah. Top. Après, il a dit, sachez que nous, les trois réunis ensemble, on n'arrive pas au quart de la connaissance en Torah de Rav Ovadia dans la Torah. À ce qu'il a témoigné. Top. En fait, des fois, ils se sont rencontrés, n'est-ce pas? Ils s'amusaient à jongler dans le chasse et le poskin, pas ensemble. Top. Ils se posaient des questions. Ben, combien de fois Abaye est ramené dans le chasse? En effet, quand il dit ça, une fois quelqu'un est venu chez le Gondvin là, et il lui a dit qu'il a étudié Masret Souka, pas 40 fois, il la maîtrise. Il dit, ah, tu la maîtrises? Très bien. Dis-moi, combien de Soukot, Kshérot, sont mentionnés dans toute la Maseret? Et combien de Soukot, Psoulot, sont mentionnés? Non, il a entendu ça, il est resté bouche bée. Et après, il a commencé, le Gondvin il a cité, il lui a dit, il y a au total, dans Maseret Souka, eh bien, 91 cas de figure différents de Soukot Kshirot, comme la Gematria de Souka avec un Vav. Et il y a Maseret Souka, 85 cas de figure de Soukot Psoulot, comme la Gematria de Souka sans Vav. Pour dire que ce n'est pas par hasard. C'est-à-dire que Rahamim ont introduit dans le chasse ce qu'il fallait exactement. Les cas de figure étaient comptés. Ravashi et Ravina, qui ont rédigé le Talmud, eh bien, ils ont introduit 91 cas de figure de Soukot Kshérot, comme Souka Melaimvav, et 85 cas de figure Psoula, comme Souka Blivav, qui vont évidemment compiler tous les autres cas de figure nouveaux, comme on aura de nos jours par exemple, eh bien, que tu pourras les apprendre de tous les cas de figure de Maseret Souka. Parce que la Torah, c'est une entité, une perfection, sans aucun manque. Ça n'est-ce pas? Eh bien, on a à peine commencé à donner un aperçu de qui était Rav Ovadia Yosef. Top. On n'a pas le temps de continuer, mais encore pour terminer, je vous répète encore une fois, il faut bien savoir que ça nous concerne. Même si des années-lumière nous séparent avec sa grandeur, mais cependant, le fait qu'il y ait de nos jours, ça te concerne à toi personnellement. Alors chacun, eh bien, peut vérifier, surtout ce jour-là, your tight, eh bien, dans quel domaine se renforcer. Par la volonté de savoir la Torah, de mémoriser la Torah, par la volonté, n'est-ce pas, d'être assidu en Torah, de répéter un chapitre, une maseret, 50 fois, 101 fois, 200 fois, chacun ce qu'il est, mais savoir que ça nous concerne. Ne pas dire que ça ne me concerne pas, au contraire, ça te concerne à toi aussi. Et sachez que notre neshama est comparé à une braise qui est enflammée, mais qui est presque éteinte. Cette braise, tu peux l'enflammer en répétant la Torah. Quand tu vas prendre un texte de Torah, tu vas le répéter 40 fois, 101 fois, c'est là où cette braise va être enflammée. Et en effet, ça, on peut se rendre compte, c'est prenez même un Tehilim. Si on fait Tehilim pendant une heure et demie, eh bien, automatiquement, notre âme, elle s'enflamme. Elle est pleine de volonté, d'ambition, d'avancer, de faire une fila, de faire tshuva, de progresser en Torah. Ça fait bout de neige. Ça, c'était un secret de l'Israël d'Israël. Et en fait, ça nous concerne à tous. Kol tov, batzlacha rabba.